From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st annual...
...à la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
With speakers selected from the general...
...choisi parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée...
Members and officers of the Church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their Church leaders. This broadcast is furnished as a public service by
service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement
or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
My dear brothers and sisters, we welcome you to the first session.
Au début de cette première session de la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints
of Latter-day Saints. And extend a special welcome to members and friends.
Aux membres et amis de l'Église qui suivent cette conférence ici au centre de conférence et partout dans le monde. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence,
a demandé
de diriger cette session.
We acknowledge the general authorities and
la présence des autorités générales et des présidences générales des auxiliaires qui assistent à cette conférence.
As we begin this morning, we make note that this conference.
Au début de notre session. Nous vous informons que cette conférence marque le 75e anniversaire du programme d'entraide de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy avec Clay Christiansen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Hosanna au grand roi » et interprétera à présent « Gloire au Dieu Tout-Puissant ». Alan F. Packer, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Père Céleste, nous te adressons, nous te sommes reconnaissants d'être réunis à cette belle conférence générale annuelle. Nous sommes reconnaissants de l'Évangile de ton Fils qui nous a été donné pour nous aider à comprendre comment nous pouvons retourner auprès de toi. Nous sommes reconnaissants de ton plan, reconnaissants de la doctrine, de la connaissance qu'il nous apporte dans nos efforts pour vivre de manière à nous qualifier pour tes bénédictions, de pouvoir retourner auprès de toi. Nous sommes reconnaissants des dirigeants de la prêtrise qui ont été appelés à diriger l'Église, le président Monson, la première présidence et les 12, les autres dirigeants qui ont été appelés dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants de la prêtrise qui a été donnée. Nous te prions, au début de cette conférence, de nous accorder ton esprit, afin que les orateurs reçoivent la capacité de nous transmettre ce qu'ils ont préparé, afin que nous puissions entendre et nous rappeler, comprendre et appliquer les principes, afin que nous intégrions à notre vie, afin que nous puissions faire avancer ton œuvre et nous préparer. Nous te demandons de nous bénir en unissant notre foi pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
It will now be our privilege to hear.
Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur chantera We listen to a prophet's voice. Après ce chant, nous entendrons L. Tom Perry du Collège des Douze Apôtres. Ensuite, Jean A. Stevens, première conseillère dans la présidence générale de la primaire, nous adressera la parole. Après quoi, nous aurons le plaisir d'entendre Walter F. Gonzalez de la présidence des 70. Président Monson.
When this building was planned,
lorsque ce bâtiment a été prévu et planifié, on a cru qu'on ne le remplirait jamais. Regardez qui nous sommes aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, comme c'est bon d'être de nouveau ensemble au début de la 181e conférence générale annuelle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les 6 derniers mois semblent être passés rapidement, car j'ai été pris par de nombreuses responsabilités. L'une des grandes bénédictions que j'ai eues a été de reconsacrer le beau temple de Lahaie à Hawaï, qui avait subi de grandes rénovations qui ont duré près de 2 ans. J'étais accompagné du président et de sœur Henry B. Eyring, de frère et sœur Quentin L. Cook et de frère et sœur William Walker. La veille, au soir de la reconsécration, qui a eu lieu en novembre, nous avons regardé le spectacle que nous ont offert 2000 jeunes du secteur du Temple dans le centre d'activité Canon du campus de BYU Hawaii. Leur spectacle s'intitulait « The Gathering Place » ou « Le lieu de rassemblement » et évoquait avec créativité et talent les événements importants de l'histoire de l'Église et de l'histoire du Temple. Quelle magnifique soirée! Le lendemain a été un festin spirituel avec la reconsécration du temple au cours de 3 sessions. L'Esprit du Seigneur était présent en grande abondance. Nous continuons de construire des temples. J'ai l'honneur d'annoncer ce matin 3 temples supplémentaires pour lesquels nous sommes en train d'acquérir des terrains et qui seront construits dans les mois et les années qui viennent aux endroits suivants. Fort Collins, au Colorado, Meridian, en Idaho, et Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Ils seront, j'en suis sûr, une bénédiction pour nos membres de ces régions. Chaque année, des millions d'ordonnances s'accomplissent dans les temples. Puissions-nous continuer d'accomplir fidèlement ces ordonnances, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos chers disparus qui sont incapables de le faire pour eux-mêmes. L'Église continue d'apporter de l'aide humanitaire lors des catastrophes. Tout récemment, nous avons été émus par la situation au Japon et y avons envoyé de l'aide à la suite du tremblement de terre et du tsunami destructeur et des difficultés nucléaires qui ont suivi. Nous avons distribué plus de 70 tonnes de fournitures, dont de la nourriture, de l'eau, des couvertures, de la literie, des articles d'hygiène, des vêtements et du combustible. Nos jeunes adultes seuls ont donné de leur temps pour localiser les membres dont on était sans nouvelles à l'aide de l'Internet, des réseaux sociaux et d'autres moyens de communication modernes. Les membres distribuent l'aide à scooters fournis par l'Église dans les régions difficiles où il est difficile de se rendre en voiture. Dans nos nombreux pieux de Tokyo, de Nagoya et d'Osaka, on organise des projets de services pour constituer des trousses d'hygiène et rassembler du matériel de nettoyage. À ce jour, plus de 40 000 heures de service ont été données par plus de 4 000 bénévoles. Nous continuerons d'apporter notre aide au Japon et dans toutes les régions où elle sera nécessaire. Mes frères et sœurs, je vous remercie de votre foi et de votre dévouement à l'Évangile, de votre amour et de votre sollicitude les uns pour les autres, ainsi que du service que vous rendez dans vos paroisses et branches, ainsi que dans vos pieux et districts. Merci aussi de votre fidélité à payer votre dîme et vos offrandes, et de la générosité avec laquelle vous versez aux autres fonds de l'Église. À la fin de l'année 2010, il y avait 52 225 missionnaires en service dans 340 missions de par le monde. C'est l'œuvre missionnaire qui donne vie au royaume. Je vous propose, si vous en êtes capable, de faire un don au Fonds missionnaire général de l'Église. À présent, mes frères et sœurs, nous avons hâte d'écouter les messages qui nous seront donnés aujourd'hui et demain. Les personnes qui vont nous parler ont recherché l'aide et la direction des cieux lorsqu'elles ont préparé leur message. Puissions-nous être remplis de l'Esprit du Seigneur et édifiés et inspirés en les écoutant et en apprenant. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes frères et sœurs du monde entier, nous sommes venus ce matin écouter la voix d'un prophète. Je témoigne que la voix que nous venons d'entendre est celle du prophète vivant de Dieu sur la terre aujourd'hui, Thomas Monson. Comme nous sommes bénis par ses enseignements et son exemple. Cette année, nous avons tous l'occasion d'étudier les paroles des prophètes du Nouveau Testament à l'école du dimanche. L'Ancien Testament étudie des prophètes et un peuple. Le Nouveau Testament, lui, se concentre sur la vie, l'influence du seul homme venu sur terre avec la double citoyenneté des cieux et de la terre, notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Le monde d'aujourd'hui est si saturé de doctrines des hommes qu'il est facile d'oublier et de perdre la foi en ce compte rendu capital de la vie et du ministère du Sauveur qu'est le Nouveau Testament. Ce livre sacré est le cœur de l'histoire scripturaire, tout comme le Sauveur lui-même est au cœur de notre vie. Nous devons nous engager à l'étudier et à le chérir. Nous pouvons trouver des joyaux de sagesse inestimables dans notre étude du Nouveau Testament. J'aime toujours lire les récits où Paul voyage et organise l'Église, surtout ses enseignements à Timothée. Au quatrième chapitre des écrits de Paul à Timothée, nous lisons « Déclare ces choses et enseigne-les. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Je ne connais pas de meilleur moyen de commencer ou de continuer d'être modèle pour les fidèles que de respecter le jour du sabbat. Dès la création du monde, un jour a été mis à part de tous les autres. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Même Dieu se reposa de son œuvre ce jour-là et il attend de ses enfants qu'ils fassent de même. Il a donné ce commandement aux enfants d'Israël. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le culte doit toujours faire partie du respect du jour du sabbat. Après être devenus mortels, Adam et Ève ont reçu le commandement d'adorer le Seigneur leur Dieu et d'offrir les premiers-nés de leurs troupeaux en offrande au Seigneur, en similitude du sacrifice du Fils unique du Père. Le sacrifice d'animaux rappelait à la postérité d'Adam qu'un jour, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, ferait le sacrifice de sa propre vie pour nous. Durant toute sa vie, le Sauveur a parlé de ce sacrifice. La veille de sa crucifixion, ses paroles se sont accomplies. Réunissant ses disciples dans une chambre haute, loin des distractions du monde, il institua la Sainte Cène. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » À partir de ce moment-là, l'expiation du Sauveur est devenue le grand et dernier sacrifice. Quand il est apparu sur le continent américain après sa résurrection, il a conféré sa prêtrise à ses disciples et a institué la Sainte Cène en leur disant, « Et cela, vous appliquerez toujours à le faire, c'est-à-dire comme j'ai rompu le pain et les bénis et vous les donnez. Et ce sera un témoignage pour le Père que vous vous souvenez toujours de moi. » Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. Il est remarquable de constater que même durant la période sombre de l'apostasie, cette pratique du culte du sabbat et de la Sainte Cène a persisté sous de nombreuses formes. Quand l'Évangile a été rétabli, trois des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, à qui le Sauveur avait d'abord donné la Sainte Cène, sont apparus à Joseph Smith et Oliver Cowdery. Sous leur direction, l'autorité de la prêtrise nécessaire pour bénir la Sainte Cène pour les membres de l'Église de Jésus-Christ a été rétablie. Conférée par le Sauveur à ses prophètes et apôtres, et d'eux à nous, cette autorité de la prêtrise perdure sur terre aujourd'hui. Des jeunes détenteurs de la prêtrise dans le monde entier se qualifient pour exercer le pouvoir de la prêtrise en respectant sincèrement les commandements et en vivant les principes de l'Évangile. En gardant leurs mains nettes et leur cœur pur spirituellement parlant, ces jeunes gens préparent, bénissent et distribuent la Sainte Cène à la manière du Seigneur, une manière qu'il a définie parce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans. Prendre la Sainte Cène est au centre de notre respect du jour du sabbat. Dans la doctrine et alliance, le Seigneur nous commande à tous, et afin de te préserver plus complètement des sûrs du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière et tu y offriras tes sacrements. Car c'est en vérité, c'est ce jour qui t'est désigné pour que tu te reposes de tes labeurs et pour que tu présentes tes dévotions au Très-Haut. Et en ce jour-là, tu ne feras rien d'autre. En étudiant le modèle du sabbat et de la Sainte Cène dans notre vie, il apparaît que le Seigneur nous demande trois choses. Premièrement, de nous préserver des sûrs du monde. Deuxièmement, d'aller à la maison de prière et d'offrir nos sacrements. Et troisièmement, de nous reposer de nos labeurs. C'est merveilleux d'être chrétien, de vivre en vrai disciple du Christ. Il a dit de nous, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Pour nous préserver des sûrs du monde, il veut que nous évitions les distractions profanes des commerces et des lieux de loisirs pendant le jour du sabbat. Je pense qu'il veut aussi que nous nous déshabillions convenablement. Nos jeunes peuvent penser que la vieille expression « habit du dimanche » est démodée. Pourtant, nous savons que lorsque nous commençons à porter les vêtements de la semaine le dimanche, nous en gardons l'attitude et les comportements. Bien entendu, il n'est peut-être pas nécessaire que nos enfants gardent leurs habits du dimanche jusqu'au coucher du soleil. Cependant, par les vêtements que nous les incitons à porter et les activités que nous planifions, nous les préparons pour la Sainte Cène et à recevoir ses bénédictions pendant toute la journée. Que signifie offrir nos sacrements au Seigneur ? Nous reconnaissons que nous faisons tous des erreurs. Chacun de nous a besoin de confesser ses péchés et ses fautes à son Père Céleste et aux autres personnes qu'il peut avoir offensées et de les délaisser. Le sabbat nous donne une occasion précieuse d'offrir nos sacrements au Seigneur. Il dit, souviens-toi qu'en ce jour, le jour du Seigneur, tu offriras tes oblations et tes sacrements au Très-Haut, confessant tes péchés à tes frères et devant le Seigneur. Melvin J. Ballard suggère, nous tenons à ce que les saints des derniers jours se rendent à la table de Sainte Cène, parce que c'est l'endroit où l'on s'examine, où l'on fait son examen de conscience, où l'on peut apprendre à rectifier ses voies et à mettre sa vie en règle. Se mettant en accord avec les enseignements de l'Église et avec ses frères et sœurs. Quand nous prenons la Sainte Cène dignement, nous témoignons que nous voulons prendre le nom du Sauveur sur nous, respecter ses commandements et nous souvenir toujours de lui, afin d'avoir son esprit avec nous. De cette manière, l'alliance de notre baptême est renouvelée. Le Seigneur a assuré à ses disciples, « Toutes les fois que vous ferez cela, vous souviendrez à ce moment que j'étais avec vous. » Parfois, nous pensons que nous reposer nos labeurs signifie simplement laisser sa moissonneuse batteuse dans le champ ou mettre une pancarte portant l'inscription fermée à la porte d'un commerce ou d'une entreprise. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, le labeur concerne le travail de notre vie de tous les jours. Il peut s'agir d'activités rémunérées que l'on peut faire de chez soi, de compétitions sportives ou d'autres passe-temps qui nous éloignent du culte du jour du sabbat et de l'occasion de servir les autres. Ne prends pas les choses sacrées à la légère, a dit le Seigneur au premier saint, comme pour nous rappeler ce qu'il a dit à ses disciples. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Frères et sœurs, en ces derniers jours, l'adversaire prospère quand nous nous relâchons dans notre engagement envers le Sauveur, quand nous ignorons ses enseignements du Nouveau Testament et d'autres Écritures, et quand nous cessons de suivre. Parents, c'est dès maintenant que vous devez enseigner à vos enfants d'être des modèles pour les fidèles en assistant à la réunion de Sainte-Cène. Lorsque le dimanche matin arrive, aidez-les à être bien reposés, bien habillés et spirituellement prêts à prendre les emblèmes de la Sainte-Cène et à recevoir le pouvoir du Saint-Esprit qui éclaire, édifie et ennoblit. Que votre foyer soit rempli d'amour par le fait que vous honorez le sabbat toute la journée et que vous goûtez à sa bénédiction spirituelle tout au long de la semaine. Exhortez vos fils et vos filles à se lever et briller en sanctifiant le jour du sabbat. Que leur lumière soit une bannière pour les nations. Au fil des années, je continue de penser au jour de sabbat de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte. Je me souviens encore du premier jour où j'ai distribué la Sainte-Cène quand j'étais diacre et des petits gobelets en verre que je tentais aux membres de ma paroisse. Il y a quelques années, un bâtiment de l'église de ma ville natale a été rénové. Un compartiment de la chaire avait été scellé. Quand on l'a ouvert, on y a découvert quelques-uns de ces petits gobelets en verre qui étaient restés cachés pendant des années. On m'en a donné un en souvenir. Je me souviens aussi d'un coffre vert que nous emportions dans les marines. À l'intérieur de ce petit coffre, il y avait un plateau en bois et des paquets de gobelets de Sainte-Cène, afin que nous puissions avoir la bénédiction de la paix et de l'espérance de la Sainte-Cène, même dans le conflit et le désespoir de la guerre. Quand je pense aux gobelets de Sainte-Cène de ma jeunesse, les uns dans la vallée protégée de la maison de mon enfance, et les autres à des milliers de kilomètres dans le Pacifique, je suis rempli de gratitude que le Sauveur du monde ait été disposé à boire la coupe amère pour moi. Et grâce à cela, je peux dire avec le psalmiste, ma coupe déborde des bénédictions de son expiation infinie et éternelle. En ce jour qui précède le sabbat, alors que nous commençons cette grande conférence, puissions-nous nous souvenir des bénédictions et des occasions qui sont les nôtres lorsque nous assistons à la réunion de Sainte-Cène chaque semaine dans notre paroisse ou notre branche. Préparons-nous et comportons-nous durant le sabbat d'une manière qui permettra que les bénédictions qui nous sont promises se déverse sur nous et notre famille. Je rends témoignage que la plus grande joie que nous recevons dans cette vie nous est donnée quand nous suivons le Sauveur. Je prie pour que nous respections ses commandements en sanctifiant son jour sacré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre Père Céleste, dans sa grande sagesse et son grand amour, envoie ses fils et ses filles d'esprit sur cette terre, enfants. Ils arrivent dans des familles comme des dons précieux qui ont une nature et une destinée divine. Notre Père Céleste sait que les enfants sont une clé pour nous aider à devenir comme lui. Les enfants peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Cette vérité importante a été démontrée il y a quelques années quand un 70 est allé à Hong Kong remplir une tâche Il rendait visite à une paroisse très pauvre qui avait de nombreuses difficultés et qui était dans la capacité de pourvoir à ses besoins. Tandis que l'évêque décrivait la situation, l'autorité générale eut le sentiment qu'il fallait que les membres payent leur dîme. L'évêque, connaissant leur grande pauvreté, se demandait comment il allait pouvoir suivre ce conseil. Il a réfléchi et il a décidé qu'il parlerait à quelques-uns des membres de la paroisse qui avaient le plus de foi et qu'il les inviterait à payer leur dîme. Le dimanche suivant, il alla à la primaire. Il parla aux enfants de la loi du Seigneur concernant la dîme et il leur demanda s'ils étaient disposés à payer la dîme sur ce qu'ils gagnaient. Les enfants dirent qu'ils le feraient et ils l'ont fait. L'évêque alla plus tard voir les adultes et il leur expliqua qu'au cours des 6 mois précédents, leurs enfants fidèles avaient payé la dîme. Il leur demandait s'ils étaient disposés à suivre l'exemple des enfants et à faire comme eux. Les adultes furent si touchés par les sacrifices que les enfants étaient disposés à faire qu'ils firent le nécessaire pour payer leur dîme. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Grâce à l'exemple de ces enfants fidèles, une paroisse progressa en obéissance et en témoignage. Jésus-Christ lui-même nous a enseigné à prendre les enfants comme exemple. Le Nouveau Testament contient la réponse qu'il fit quand ses apôtres se demandaient qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Il répondit à leur question en se servant d'une aide visuelle simple mais d'une grande force. Ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Que devons-nous apprendre des enfants? Quelles sont les qualités qu'ils possèdent et en quoi leur exemple peut-il aider notre propre développement? Ces enfants précieux de Dieu viennent chez nous, le cœur disposé à croire. Ils sont pleins de foi et réceptifs aux sentiments suscités par l'Esprit. Ils sont des exemples d'humilité, d'obéissance et d'amour. Ils sont souvent les premiers à aimer et à pardonner. Je vais vous donner quelques exemples de la bénédiction que les enfants peuvent être dans notre vie, grâce à l'exemple innocent et cependant puissant qu'ils donnent des qualités chrétiennes. Todd, petit garçon de 2 ans, est allé récemment avec sa mère dans un musée d'art voir une exposition spéciale de tableaux du Sauveur. Tandis qu'il passait à côté de ces images sacrées, elle entendit son petit garçon prononcer avec révérence le nom Jésus. Elle le vit en train de croiser ses bras et de baisser la tête, tandis qu'il regardait les tableaux. Qu'est-ce que Todd peut nous apprendre sur l'attitude d'humilité, de révérence et d'amour pour le Seigneur? L'automne dernier, j'ai observé l'exemple d'un jeune Arménien de 10 ans. Tandis que nous attendions que la réunion de Sainte-Seine commence, il a remarqué l'arrivée de la sœur la plus âgée de la branche. C'est lui qui est allé rapidement à côté d'elle, qui lui a offert son bras pour la soutenir dans ses pas hésitants. Il l'a guidée jusqu'au banc de devant, où elle pouvait bien entendre. Son petit geste de gentillesse peut-il nous enseigner que les personnes les plus grandes dans le royaume du Seigneur sont celles qui recherchent des occasions de servir les autres? Cathy, fillette de la primaire, nous a instruit que nous a instruit par l'influence qu'elle a eue sur sa famille. Elle est allée à la primaire et a été attirée par les enseignements de l'Évangile. Sa foi et son témoignage grandissant, elle a laissé un petit mot sur l'oreiller de ses parents. Elle a écrit que les vérités de l'Évangile avaient trouvé un foyer dans son cœur. Elle a exprimé son désir fervent d'être proche de son Père Céleste et de voir sa famille scellée dans le Temple. Le témoignage simple de cette gentille petite fille a profondément touché le cœur de ses parents. Cathy et sa famille ont reçu les ordonnances sacrées du Temple qui ont uni leur famille à tout jamais. L'exemple de la foi de Cathy a apporté les bénédictions éternelles à sa famille. Son témoignage sincère et son désir de suivre le plan du Seigneur peuvent-ils nous amener à voir plus clairement ce qui est réellement le plus important? Notre famille reçoit des leçons de Liam, 6 ans, un proche parent. L'année dernière, il a lutté contre une tumeur maligne au cerveau. Après 2 opérations difficiles, il a été décidé que de la radiothérapie serait aussi indispensable. Pendant les traitements par radiothérapie, il devait rester seul, allongé, absolument sans bouger. Liam ne voulait pas de sédatif parce qu'il n'aimait pas la sensation que cela lui donnait. Il a décidé que s'il pouvait entendre la voix de son papa par l'interphone, il resterait couché, immobile, sans sédatif. Pendant ces moments d'anxiété, son père lui a dit des paroles d'encouragement et d'amour. « Liam, bien que tu ne puisses pas me voir, je suis là. Je sais que tu peux y arriver. Je t'aime. » Liam a réussi à rester totalement immobile pendant qu'il subissait les 33 séances de radiothérapie. C'était une prouesse que ses médecins pensaient impossible sans sédatif pour quelqu'un de si jeune. Pendant des mois de douleurs et d'épreuves, l'optimisme contagieux de Liam a été un grand exemple de la façon d'affronter l'adversité avec espoir et même bonheur. Ses médecins, ses infirmières et d'innombrables autres personnes ont été inspirées par son courage. Liam nous donne à tous des leçons importantes sur le fait de choisir la foi et de faire confiance à notre Père Céleste. Comme lui, nous ne pouvons pas voir notre Père Céleste, mais nous pouvons écouter sa voix, nous donner la force dont nous avons besoin pour supporter les difficultés de la vie. L'exemple de Liam ne nous aide-t-il pas à mieux comprendre l'exhortation du Benjamin de devenir comme un enfant, soumis, doux, humble, patient et plein d'amour? Ces enfants nous fournissent des exemples des qualités qu'ils possèdent et que nous devons acquérir ou redécouvrir en nous-mêmes pour entrer dans le royaume des cieux. Ce sont des esprits éveillés qui ne sont pas ternis par le monde, des esprits réceptifs et pleins de foi. Il n'est pas étonnant que le Sauveur ait particulièrement de l'estime et de l'amour pour les petits-enfants. Le tendre ministère du Sauveur auprès des enfants tient une place à part dans les événements transcendants de sa visite en Amérique. D'une manière poignante, il s'est occupé de chaque enfant. Et il prit leurs petits-enfants, un par un, et les bénit, et pria le Père pour eux. Et lorsqu'il eut fait cela, il pleura de nouveau. Et il parla à la multitude et lui dit, « Voyez vos petits-enfants. » M. Russell Ballard, du Collège des 12 apôtres, nous a enseigné l'importance de l'exaltation du Sauveur lorsqu'il a dit, « Voyez vos petits-enfants. » Frère Ballard a dit, « Remarquez qu'il n'a pas dit « jetez un coup d'œil sur eux, regardez-les distraitement, ni regardez de temps à autre dans leur direction. » Il a dit de les voir. Pour moi, cela signifie que nous devons les embrasser du regard et de notre cœur, les voir et les apprécier tels qu'ils sont réellement, les enfants d'esprit de notre Père Céleste, dotés de qualités divines. » Fin de citation. Il n'y a pas d'endroit plus parfait pour voir nos petits-enfants que dans notre famille. Le foyer est l'endroit où nous pouvons tous apprendre et progresser ensemble. Un de nos beaux chants de la primaire enseigne cette vérité. Dieu nous a donné une famille pour nous aider à devenir ce qu'il veut que nous soyons. C'est ainsi qu'il exprime son amour, car la famille est ordonnée de Dieu. C'est dans notre famille, dans une atmosphère d'amour et de foi, que nous voyons et apprécions d'une manière plus personnelle les qualités divines des enfants d'Esprit de Dieu. C'est là que notre cœur peut être touché et qu'humblement, nous pouvons désirer changer, devenir plus semblable à un enfant. C'est le processus par lequel nous devons devenir davantage semblables au Christ. Est-ce que certaines des expériences de la vie vous ont enlevé la disposition à croire et la foi semblable à celle d'un enfant que vous avez eu un jour? Regardez les enfants autour de vous et puis regardez encore. Ce sont peut-être des enfants de votre famille, du trottoir d'en face ou de la primaire de votre paroisse. Si nous avons le désir d'apprendre et la volonté de suivre l'exemple des enfants, leurs attributs divins peuvent détenir une clé pour débloquer notre propre croissance spirituelle. Je serai toujours reconnaissante de la bénédiction que sont mes deux enfants. L'exemple de chacun d'eux m'a enseigné des leçons dont j'avais besoin. Ils m'ont aidé à m'améliorer. Je témoigne humblement, mais avec certitude, que Jésus est le Christ. Il est l'unique Fils parfait, soumis, doux, humble, patient, et tellement plein d'amour. Je prie pour que chacun de nous ait le désir de suivre son exemple, de devenir comme un petit enfant et ainsi de retourner à notre foyer céleste. C'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Last October, my wife and I.
En octobre dernier, ma femme et moi, nous avons accompagné Neil Anderson du Collège des Douze Apôtres et sa femme pour la pose de la première pierre d'un nouveau temple à Cordoba en Argentine. Comme le veut l'usage, une conférence de presse a suivi la cérémonie. Un journaliste qui n'était pas membre de l'Église, une journaliste, a dit qu'elle avait remarqué combien les hommes traitaient bien leurs femmes. Puis elle a posé une question inattendue. Est-ce réel ou fictif? Je suis sûr qu'elle avait vu et ressenti quelque chose de différent parmi nos membres. Elle a peut-être ressenti le désir de nos membres de suivre le Christ. Les membres du monde entier ont ce désir. Dans le même temps, des millions de personnes qui ne sont pas membres de l'Église ont aussi le désir de suivre le Christ. Nous avons, ma femme et moi, été impressionnés récemment par les gens que nous avons vus au Ghana et au Nigeria. La plupart n'étaient pas membres de notre Église. Nous étions heureux de voir leur désir de suivre le Christ se refléter dans un grand nombre de leurs conversations chez eux, sur leurs voitures, sur leurs murs et sur leurs panneaux d'affichage. Nous n'avions jamais vu autant d'églises chrétiennes les unes à côté des autres. Nous, les saints des derniers jours, nous avons le devoir d'inviter des millions de personnes, telles que celles-là, à venir voir ce que l'Église peut ajouter aux bonnes choses qu'elles ont déjà. N'importe qui, de n'importe quel continent, climat ou culture, peut savoir par elle-même que Joseph Smith, le prophète, a vu le Père et le Fils dans une vision. N'importe qui peut savoir que des messagers célestes ont rétabli la prêtrise et que le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ. Pour reprendre les paroles d'Enoch, la justice est descendue des cieux et la vérité est montée de la terre pour rendre témoignage du Fils unique du Père. Le Sauveur a fait cette promesse. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les disciples du Christ modèlent leur vie sur le Sauveur et ils marchent dans la lumière. Deux caractéristiques peuvent nous aider à nous rendre compte à quel point nous le suivons. Premièrement, les disciples du Christ sont des gens aimants. Deuxièmement, les disciples du Christ font et respectent des alliances. La première caractéristique, celle d'être quelqu'un d'aimant, est probablement l'une des choses que la journaliste de Cordoba a remarquées parmi les membres de l'Église. Nous suivons le Christ parce que nous l'aimons. Quand nous suivons le Rédempteur par amour, nous suivons son propre exemple. Par amour, le Sauveur était obéissant à la volonté du Père en toutes circonstances. Notre Sauveur a été obéissant, même quand cela a signifié qu'il allait devoir subir une grande douleur physique et émotionnelle, même quand cela a signifié qu'il allait être l'objet de flagellations et de moqueries, même quand cela a signifié que ses ennemis allaient le torturer tandis que ses amis l'abandonnaient. Le sacrifice expiatoire, qui est propre à la mission du Sauveur, est la plus grande expression d'amour jamais donnée. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. De même que le Christ a suivi le Père en toutes circonstances, de même nous devons suivre son Fils. Si nous le faisons, peu importe le genre de chagrin, de souffrance ou d'écharde dans la chair que nous affrontions, nous ne sommes pas seuls. Le Christ nous aidera. Ses tendres miséricordes nous rendront puissants, quelles que soient les circonstances. Suivre le Christ peut signifier abandonner de nombreuses choses qui nous sont chères, comme le fit Ruth, la Moabite. Nouvelle convertie, par amour pour Dieu et pour Naomi, elle quitta tout pour vivre sa religion. Cela peut aussi signifier résister à l'adversité et aux tentations. Dans sa jeunesse, Joseph fut vendu comme esclave. Il fut éloigné de tout ce qu'il aimait. Plus tard, on le tenta d'enfreindre la loi de chasteté. Il résista à la tentation en déclarant « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Son amour pour Dieu était plus puissant que n'importe quelle adversité ou tentation. Aujourd'hui, nous avons des Ruth et des Joseph modernes dans le monde entier. Quand Jimmy Olvera de Guayaquil en Équateur a reçu son appel en mission, sa famille était en butte à de grandes difficultés. Le jour de son départ, on lui a dit que s'il franchissait la porte, il n'aurait plus de famille. Le cœur brisé, il a franchi cette porte. Au cours de sa mission, sa mère lui a demandé de la prolonger parce qu'il recevait énormément de bénédictions. Aujourd'hui, frère Olvera est patriarche de Pieux. Aimer vraiment le Christ procure la force nécessaire pour le suivre. Le Seigneur lui-même l'a montré quand il a demandé trois fois à Pierre, « M'aimes-tu ?» Après que Pierre lui eut réaffirmé son amour, le Sauveur lui parla des difficultés à venir. C'est alors que vint l'appel, « Suis-moi ». La question que le Sauveur a posée à Pierre peut aussi nous être posée, « M'aimes-tu ?» suivie d'une invitation à l'action, « Suis-moi ». L'amour est une influence très puissante dans nos efforts pour être obéissants. L'amour pour notre Sauveur nous inspire à respecter ses commandements. L'amour pour notre mère, notre père ou notre conjoint peut aussi nous inspirer à obéir aux principes de l'Évangile. La manière dont nous traitons les autres illustre jusqu'à quel point nous suivons le Sauveur de notre amour les uns pour les autres. Nous montrons notre amour pour lui quand nous arrêtons pour aider les autres, quand nous sommes parfaitement honnêtes et droits en tout, et quand nous contractons et respectons des alliances. La deuxième caractéristique que possèdent les disciples du Christ est de faire et de contracter des alliances, comme il l'a fait. Moroni expliquait, « L'effusion du sang du Christ est dans l'alliance du Père pour le pardon de vos péchés, afin que vous deveniez saints, sans tache. » Joseph Smith, le prophète, a enseigné qu'avant même l'organisation de cette terre, des alliances furent faites dans les cieux. Les prophètes et les patriarches d'autrefois ont fait des alliances. Le Sauveur lui-même a donné l'exemple. Il a été baptisé pour accomplir toute justice par quelqu'un ayant l'autorité requise. Par son baptême, le Sauveur a témoigné au Père qu'il serait fidèle à respecter tous ses commandements. Comme dans les temps anciens, nous suivons aussi le Christ et nous faisons des alliances au moyen des ordonnances de la prêtrise. Faire des alliances est quelque chose que des millions de gens qui ne sont pas membres de notre Église peuvent ajouter aux choses très bonnes qu'ils ont déjà. Faire des alliances est une expression d'amour. C'est une façon de dire au Seigneur, « Oui, je te suivrai ». Les alliances incluent des promesses, même de la vie éternelle. Toutes choses concourront à notre bien si nous nous souvenons de nos alliances. Nous devons les contracter et les respecter pour recevoir pleinement les promesses qu'elles comportent. Notre amour du Sauveur et le souvenir de nos alliances nous aideront à les respecter. Prendre la Sainte Cène chaque semaine est un moyen de nous souvenir de nos alliances. Un autre moyen est d'aller souvent au temple. Je me souviens de jeunes mariés d'Amérique du Sud qui voulaient se séparer parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. Un dirigeant de la prêtrise leur a conseillé d'aller au temple et de faire particulièrement attention aux paroles et aux promesses des alliances faites là-bas. Ils l'ont fait, et cela a sauvé leur mariage. Le pouvoir de nos alliances est plus grand que n'importe laquelle des difficultés que nous affrontons. Je dis aux membres qui ne sont pas actifs dans l'Évangile, revenez, s'il vous plaît, ressentez la bénédiction de vous souvenir et de renouveler les alliances grâce à la Sainte Cène et à l'assistance au Temple. Agir ainsi est une expression d'amour et l'indication de la volonté d'être un vrai disciple du Christ. Cela vous qualifiera pour recevoir toutes les bénédictions promises. J'invite les personnes qui ne sont pas membres de notre Église à exercer la foi, à se repentir et à se qualifier pour recevoir l'alliance du baptême dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. en agissant ainsi, elles montreront leur amour pour leur Père céleste et leur volonté de suivre le Christ. Je témoigne qu'en tant qu'individus et en famille, nous serons plus heureux si nous suivons les enseignements de l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous nous efforçons de le suivre, les bénédictions du ciel viendront à nous. Je sais que ces promesses s'accompliront si nous faisons et respectons des alliances et devenons de vrais disciples du Christ. Je témoigne de son grand amour pour chacun de nous, et je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation will now join in singing, I know
that... Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Je sais qu'il vit mon Rédempteur ». Après ce chant, Kent F. Richard, des 70, s'adressera à nous. Il sera suivi de Quentin L. Cook, du Collège des 12 Apôtres. Le chœur chantera ensuite « Je sais que mon Sauveur m'aime ».
This is the 181st annual.
Vous assistez à la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
En tant que chirurgien, j'ai passé une partie importante de ma vie professionnelle à traiter la souffrance. J'ai été obligé de l'infliger presque chaque jour et j'ai ensuite consacré une grande partie de mes efforts à essayer de la limiter et de la soulager. J'ai médité sur le but de la souffrance. Aucun de nous n'est à l'abri de la souffrance. J'ai vu les gens y faire face très différemment. Certains se détournent de Dieu avec colère, tandis que d'autres permettent à leur souffrance de les rapprocher de lui. Tout comme vous, j'ai connu la souffrance. Elle est un indicateur du processus de guérison. Elle nous enseigne souvent la patience. C'est peut-être pourquoi nous utilisons le terme de patient pour parler des malades. Orson F. Whitney a écrit : aucune des souffrances que nous connaissons, aucune des épreuves que nous traversons n'est vaine. La souffrance nous instruit, elle assure l'acquisition de qualités telles que la patience, la foi, la force d'âme et l'humilité. C'est par le chagrin et la souffrance, les labeurs et les tribulations que nous acquérons l'éducation que nous sommes venus acquérir ici. De même, Robert D. Hales a dit, la douleur conduit à une humilité qui permet de méditer. C'est une expérience que je suis reconnaissant d'avoir supportée. J'ai appris que la douleur physique et la guérison du corps, après une opération importante, sont très semblables à la douleur spirituelle et à la guérison de l'âme dans le processus du repentir. Une grande partie de notre souffrance n'est pas nécessairement de notre faute. Des événements inattendus, des circonstances contraires ou décourageantes, une maladie dérangeante et même la mort nous entourent et pénètrent notre expérience dans la chair. De plus, nous pouvons subir des afflictions à cause des actions des autres. Lee note que Jacob a souffert beaucoup de tristesse à cause de la violence de ses frères. Nous nous en rencontrons tous suffisamment pour nous faire prendre conscience de l'amour de notre Père Céleste et de notre besoin de l'aide du Sauveur. Le Sauveur n'est pas un observateur silencieux. Il connaît personnellement et infiniment la souffrance que nous rencontrons. Il subit les souffrances de tous les hommes. Oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Parfois, dans la profondeur de la douleur, nous sommes tentés de demander, n'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Je témoigne qu'il y a bien un médecin. L'expiation de Jésus-Christ s'applique à toutes ces situations et à tous les objectifs de la condition mortelle. Il y a un autre genre de souffrance dont nous sommes responsables, nous. La souffrance spirituelle réside au tréfonds de notre âme et peut sembler impossible à soulager au point que nous sommes torturés par une horreur inexprimable, comme l'a décrit Alma. Elle vient de nos actions pécheresses et de notre manque de repentir. Pour cette souffrance aussi, il existe un remède universel et absolu. Il vient du Père, par l'intermédiaire du Fils. Il est pour tous ceux d'entre nous qui sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour se repentir. Le Christ a dit, « N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et être converti afin que je vous guérisse ?» Le Christ a lui-même enseigné, « Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi. C'est pourquoi, selon le pouvoir du Père, j'attirerai tous les hommes à moi. » Son œuvre la plus importante est peut-être son travail constant avec chacun de nous, individuellement, pour nous édifier, nous bénir, nous fortifier, nous soutenir, nous guider et nous pardonner. Comme Néphi en a eu la vision, une grande partie du ministère du Christ dans la condition mortelle a été consacrée à bénir et à guérir les malades de toutes sortes de maladies, physiques, émotionnelles et spirituelles. Et je vis des multitudes de gens qui étaient malades et qui étaient affligés de toutes sortes de maladies. Et l'ange me montra toutes ces choses, et ils étaient guéris par le pouvoir de l'agneau de Dieu. Alma a également fait cette prophétie. Il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Tard dans la nuit, allongé sur un lit d'hôpital, cette fois-là, en tant que patient et non en tant que médecin, j'ai lu et relu ces versets. Je me suis demandé, comment cela s'accomplit-il? Pour qui? Que faut-il faire pour y avoir droit? Est-ce semblable au pardon des péchés? Devons-nous mériter son amour et son aide? En réfléchissant, j'ai compris qu'au cours de sa vie terrestre, le Christ a choisi de faire l'expérience des souffrances et des afflictions pour pouvoir nous comprendre. Nous avons peut-être nous aussi besoin de faire l'expérience des profondeurs de la condition mortelle pour pouvoir le comprendre, lui et nos buts éternels. Henry Eyring a enseigné, quand nous attendons désespérément le secours promis du Sauveur, nous sommes soulagés de voir qu'il sait par expérience comment nous guérir et nous aider. Et la foi en ce pouvoir nous donnera la patience tandis que nous prierons, travaillerons et attendrons de l'aide. Il aurait pu savoir comment nous secourir simplement par révélation, mais il a choisi de l'apprendre par expérience personnelle. Je me suis senti entouré des bras de son amour ce soir-là. J'ai pleuré de reconnaissance. Plus tard, en lisant un passage de Matthieu sur le ministère du Christ dans la condition mortelle, j'ai fait une autre découverte. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs malades et il les guérit tous. Il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Aucun n'a été renvoyé. Comme Dallin Oaks l'a enseigné, les bénédictions de guérison se produisent de toutes sortes de façons, chacune adaptée à nos besoins respectifs tels que les connaît celui qui nous aime le mieux. Parfois, une guérison traite notre maladie ou allège notre fardeau. Mais parfois, nous sommes guéris en recevant de la force, de la compréhension ou de la patience pour supporter les fardeaux qui nous sont imposés. Il réagit envers nous comme il a fait envers tous. Tous ceux qui iront à lui pourront être serrés dans les bras de Jésus. Toute âme peut être guérie par son pouvoir. Toute souffrance peut être apaisée. En lui, nous pouvons trouver du repos pour notre âme. Nos circonstances dans la condition mortelle peuvent ne pas changer immédiatement, mais notre douleur, nos soucis, nos souffrances et nos peurs peuvent être englouties dans sa paix et dans son baume guérisseur. J'ai remarqué que les enfants acceptent souvent plus naturellement la douleur et la souffrance. Il les supporte silencieusement avec humilité et docilité. J'ai ressenti un bel et tendre esprit entourer ses petits. Sherry, 13 ans, a subi une opération de 14 heures pour une tumeur sur la moelle épinière. En reprenant conscience dans le service des soins intensifs, elle a dit « Papa, tante Cheryl est ici et papy Norman, mamie Brown sont ici. Papa, qui est à côté de toi? Il te ressemble, mais il est plus grand. » Il dit qu'il est ton frère Jimmy. Son oncle Jimmy était mort à 13 ans de mucoviscidose. Pendant près d'une heure, Sherry a décrit ses visiteurs, tous des membres décédés de sa famille. Épuisée, elle s'est endormie. Plus tard, elle a dit à son père, « Papa, tous les enfants ici dans le service des soins intensifs ont des anges qui les aident. » Le Seigneur nous dit à tous, « Voici, vous êtes de petits enfants et vous ne pouvez pas tout supporter maintenant. Vous devez progresser en grâce et en connaissance de la vérité. Ne craignez pas, petits enfants, car vous êtes à moi. C'est pourquoi je suis au milieu de vous et je suis le bon berger. » Notre grand défi personnel dans la condition mortelle est de devenir un saint par l'expiation du Christ. C'est probablement dans la souffrance que nous endurons, vous et moi, que ce processus est le mieux mesuré. Dans la douleur, nous pouvons devenir comme des enfants dans notre cœur, nous humilier et prier, travailler et attendre patiemment la guérison de notre âme et de notre corps. Comme Job, après avoir été raffiné par nos épreuves, nous sortirons purs comme l'or. Je rends témoignage que le Christ est notre Rédempteur, notre ami, notre avocat, le grand médecin, le grand guérisseur. En lui, nous pouvons trouver la paix et le soulagement de notre souffrance et de nos péchés si nous allons à lui, le cœur humble. Sa grâce nous suffit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'historien et auteur Wallace Stegner a écrit sur la migration des Mormons et le rassemblement dans la vallée du lac Salé. Il n'a pas accepté notre religion et il a été critiqué de bien des façons. Néanmoins, il a été impressionné par le dévouement et l'héroïsme des premiers membres de l'Église, particulièrement des femmes. Il a déclaré « Leurs femmes étaient incroyables ». J'exprime le même sentiment aujourd'hui. Nos saintes des derniers jours sont incroyables. Dieu a donné aux femmes des qualités divines, telles que la force, la vertu, l'amour et la volonté de se sacrifier pour élever les prochaines générations de ses enfants d'esprit. Aux États-Unis, une étude récente affirme que les femmes de toutes les religions croient en Dieu avec plus de ferveur et participent à plus de cultes religieux. À quasiment tous les points de vue, elles sont plus religieuses. Je n'ai pas été surpris de ce résultat, surtout en pensant au rôle prééminent de la famille et des femmes dans notre religion. Notre doctrine est claire. Les femmes sont des filles de notre Père Céleste qui les aime. Les femmes sont les égales de leur mari. Le mariage nécessite un partenariat complet où femme et mari travaillent côte à côte pour répondre aux besoins de la famille. Nous savons que les femmes, y compris celles qui s'efforcent de vivre l'Évangile, rencontrent beaucoup de difficultés. La foi des sœurs est un élément majeur de la vie de nos ancêtres pionniers. Par nature divine, les femmes ont le don et la responsabilité supérieure du foyer, des enfants, et de veiller sur eux, là et dans d'autres cadres. À la lumière de cela, la foi des sœurs disposées à partir de chez elles pour traverser les plaines vers l'inconnu est inspirante. Si on devait définir leur qualité la plus importante, ce serait leur foi inébranlable dans l'Évangile rétabli du Seigneur Jésus-Christ. Les récits héroïques de ce que ces pionnières ont sacrifié et accompli en traversant les plaines est un legs inestimable laissé à l'Église. Je suis touché par le récit d'Elizabeth Jackson, dont le mari, Aaron, mourut après la dernière traversée de la rivière Platte par le convoi de charrette Abraham Martin. Elle écrit « Je ne vais pas essayer de décrire ce que cela m'a fait de devenir ainsi veuve avec trois enfants en de telles circonstances. Je crois que mes souffrances pour la cause de l'Évangile seront sanctifiées et seront pour mon bien. J'ai fait appel au Seigneur, lui qui avait promis d'être un mari pour la veuve et un père pour l'orphelin. J'ai fait appel à lui et il est venu à mon aide. » Elle dit qu'elle écrivait l'histoire au nom des personnes qui traversaient des situations semblables, dans l'espoir que la postérité serait disposée à souffrir et à tout sacrifier pour le royaume de Dieu. Je crois que les femmes de l'Église d'aujourd'hui relèvent le défi et qu'elles sont à tout point de vue aussi fortes et fidèles. Les dirigeants de la prêtrise à tous les niveaux de cette Église reconnaissent le service, le sacrifice, l'engagement et les contributions des sœurs. Une grande partie de ce que nous accomplissons dans l'Église est due au service désintéressé des femmes, que ce soit à l'Église ou au foyer. C'est beau de voir la prêtrise, la société de secours, travailler en parfaite harmonie. Une telle relation est semblable à un orchestre bien synchronisé et la symphonie qui en résulte nous inspire tous. Quand on m'a récemment envoyé dans le pieu de Mission Vero en Californie pour une conférence, j'ai été touché par un récit concernant le bal du Nouvel An des jeunes des quatre pieux. Après le bal, on a trouvé un sac à main sans nom à l'extérieur. Voici ce que Monica Sedgwick, la présidente des jeunes filles du pieu de Laguna Niguel, a écrit. Nous ne voulions pas fouiller. C'était des affaires personnelles. Elles ont délicatement ouvert le sac et ont attrapé la première chose qui se trouvait au-dessus, en espérant que cela permettrait de savoir à qui il appartenait. Ce fut le cas. mais d'une autre façon. C'était la brochure « Jeune, soyez fort ». Waouh ! Ça nous a appris quelque chose à son sujet. Puis nous avons pris l'objet suivant, un petit carnet de notes. Il nous donnerait sûrement la réponse. Mais pas ce que nous attendions. La première page était une liste de versets préférés des Écritures. Il y avait 5 autres pages de passages d'Écriture soigneusement recopiés et des notes personnelles. Les sœurs ont tout de suite voulu rencontrer cette jeune fille exemplaire. Elles sont retournées au sac à main pour identifier sa propriétaire. Elles en ont tiré des pastilles à la menthe, du savon et une lotion et une brosse. J'ai aimé leurs commentaires. « Oh, de bonnes choses sortent de sa bouche. Elle a des mains propres et douces, et elle prend soin d'elle. » Elles attendaient impatiemment le trésor suivant. On sortit un astucieux porte-monnaie fait maison à partir d'un pack de jus d'orange. Il y avait un peu d'argent dans une poche zippée. Elles se sont exclamées, « Ah, elle est créative et préparée !» Elles éprouvaient la même chose que des enfants un matin de Noël. Ce qu'elles ont retiré ensuite les a encore plus surprises. Une recette de gâteau forêt noire et une note pour le faire à l'occasion de l'anniversaire d'une amie. Elles ont failli crier, « C'est une maîtresse de maison, consciencieuse et serviable. » Et puis oui, enfin, de quoi l'identifier. Les dirigeantes des jeunes ont dit que c'était pour elles une grande bénédiction de constater l'exemple discret d'une jeune fille vivant l'Évangile. Ce récit illustre l'engagement de nos jeunes filles à suivre les principes de l'Église. C'est aussi un exemple de ce que sont les dirigeantes des jeunes filles du monde entier, attentives, pleines de sollicitude et dévouées. Elles sont incroyables. Les sœurs ont un rôle clé dans l'Église, dans la vie familiale, et chacune d'elles est essentielle au plan de notre Père Céleste. Beaucoup de ces responsabilités ne produisent pas de rémunération, mais elles apportent de la satisfaction et elles ont une importance éternelle. Récemment, une femme charmante et très capable d'une rédaction de journal a demandé une description du rôle de la femme dans l'Église. On lui a expliqué qu'aucun des dirigeants de nos assemblées n'est rémunéré. Elle a interrompu pour dire qu'elle était nettement moins intéressée. Elle a répondu, « Je ne crois pas que les femmes aient besoin de plus d'emplois non rémunérés. » Nous lui avons fait remarquer que l'organisation la plus importante sur Terre est la famille, où le père et la mère sont des partenaires égaux. Aucun des deux ne reçoit de rémunération, mais les bénédictions vont au-delà de toute description. Nous lui avons bien entendu parlé de la société de secours, des jeunes filles et de la primaire qui sont guidées par des présidentes. Nous lui avons indiqué que depuis le tout début de notre histoire, les femmes, comme les hommes, prient, jouent de la musique, font des discours, chantent dans la chorale, même pendant la réunion de Sainte-Seine, notre réunion la plus sacrée. American Grace, un livre récent qui a connu un grand succès, fait rapport sur les femmes de nombreuses religions. Il relève que les saints des derniers jours sont les seuls à être extrêmement satisfaits de leur rôle dans la direction de l'Église. De plus, de toutes les religions étudiées, ce sont les saints, dans leur ensemble, hommes et femmes, qui sont les plus attachés à leur foi. Ce n'est pas parce qu'elles parviennent à éviter les difficultés de la vie que nos femmes sont incroyables, bien au contraire. Elles sont incroyables par leur façon de faire face aux épreuves de la vie. Malgré les difficultés, les épreuves que la vie impose, du fait du mariage ou de l'absence de mariage, les choix des enfants, la mauvaise santé, l'avenir bouché et bien d'autres problèmes, elles demeurent remarquablement fortes, inébranlables et fidèles à leur foi. Dans toute l'Église, nos sœurs vont continuellement au secours des faibles, fortifient les mains languissantes et affermissent les genoux qui chancellent. Une présidente de la société de secours qui reconnaissait ce service extraordinaire a déclaré « Même lorsqu'elles rendent service, les sœurs pensent « Si seulement j'avais pu faire plus ». Humblement, elle a lu une longue liste des services rendus récemment par les sœurs. Même si elles ne sont pas parfaites et qu'elles font toutes face à des soucis personnels, leur foi en un Père céleste aimant et l'assurance du sacrifice expiatoire du Sauveur imprègnent leur vie. Pendant les 3 dernières années, la première présidence et le Collège des 12 ont cherché à être guidés et inspirés à recevoir la révélation en tenant conseil avec les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires et en travaillant sur le nouveau manuel de l'Église. Ce faisant, j'ai éprouvé une reconnaissance infinie pour le rôle essentiel que les sœurs, mariées ou non, ont joué historiquement et jouent à présent à la fois dans la famille et dans l'Église. Tous les membres de l'Église de Jésus-Christ doivent travailler dans sa vigne au salut de l'âme des hommes. Cette œuvre de salut comprend l'œuvre missionnaire par les membres, le maintien des convertis dans l'Église, la remotivation des membres non pratiquants, l'œuvre du temple et de l'histoire familiale, l'enseignement de l'Évangile et l'aide aux pauvres et aux nécessiteux, ce qui est avant tout géré par le conseil de paroisse. Pour être précis, il est attendu dans les nouveaux manuels que les évêques, sensibles aux demandes existantes, délèguent davantage de responsabilités. Les membres doivent être conscients du fait que l'on a demandé à l'évêque de déléguer. Les membres doivent le soutenir dans l'application de cette directive. Cela permettra à l'évêque de passer plus de temps avec les jeunes adultes seuls et sa propre famille. Il déléguera d'autres responsabilités importantes aux dirigeants de la prêtrise, aux présidents des auxiliaires et à des personnes déterminées, hommes et femmes. Dans l'Église, on respecte beaucoup le rôle de la femme au sein du foyer. Quand une mère reçoit un appel qui demande beaucoup de temps, on donne souvent au père un appel moins exigeant afin de maintenir l'équilibre dans la vie de la famille. Il y a plusieurs années, j'ai assisté à une conférence de pieux à Tonga. Dimanche matin, les trois premiers rangs de l'église étaient remplis d'hommes âgés de 26 à 35 ans. J'ai supposé qu'ils faisaient partie d'un chœur. Mais quand on est passé aux affaires de la conférence, chacun de ces hommes, 63 au total, s'est levé à la lecture de son nom pour être soutenu et ordonné à la prêtrise de Melchizedek. J'étais à la fois heureux et stupéfait. Après la session, j'ai demandé à frère Matiaki, le président de pieux, comment un tel miracle s'était accompli. Il m'a dit qu'ils ont parlé de remotivation pendant un conseil de pieux. Sa présidente de la société de secours, Lenata Van Nyoku, a demandé si elle pouvait dire quelque chose. Pendant qu'elle parlait, l'esprit a confirmé au président que ce qu'elle suggérait était vrai. Elle a expliqué qu'il y avait dans le pieu de nombreux hommes approchant la trentaine ou l'ayant dépassé, qui n'avaient pas fait de mission. Elle a dit que beaucoup d'entre eux savaient qu'ils avaient déçu des évêques et des dirigeants de la prêtrise qui les avaient fortement encouragés à faire une mission et que maintenant, ils avaient le sentiment de n'être que des membres de deuxième classe. Elle a fait remarquer que ces jeunes hommes n'étaient plus en âge de partir en mission. Elle a exprimé son amour et son inquiétude pour eux. Elle a expliqué que toutes les ordonnances salvatrices leur étaient toujours accessibles et qu'on devrait se concentrer sur l'ordination à la prêtrise et sur les ordonnances du temple. Elle a souligné que certains d'entre eux étaient toujours célibataires, mais que la plupart avaient épousé d'excellentes femmes, certaines pratiquantes, d'autres non, et d'autres non-membres. Après une discussion approfondie pendant le conseil de pieux, on a décidé que les hommes de la prêtrise et les sœurs de la société de secours iraient au secours de ces hommes et de ces femmes, pendant que les évêques passeraient plus de leur temps avec les jeunes gens et les jeunes filles dans les paroisses. Les personnes participant au sauvetage se sont concentrées sur la préparation à l'ordination à la prêtrise, au mariage éternel et aux ordonnances salvatrices du temple. Au cours des deux années suivantes, presque tous les hommes, parmi les 63 qui avaient été soutenus lors de la conférence à laquelle j'avais assisté, pour être ordonnés à la prêtrise de Melchizedek, ont reçu leur dotation au temple et ont été scellés à leurs femmes. Cette histoire n'est qu'un exemple parmi d'autres du rôle clé de nos sœurs dans l'œuvre du salut, dans nos paroisses et nos pieux, de la façon dont elles favorisent la révélation, particulièrement dans les conseils de l'Église. Nous sommes conscients que des forces énormes sont liguées contre les femmes et la famille. Des études récentes montrent que la considération à l'égard du mariage se détériore et que le nombre d'adultes qui se marient diminue. Pour certaines personnes, le mariage et la famille deviennent un choix sur un menu plutôt que le principe de base de l'organisation de notre société. Les femmes doivent faire face à de nombreuses options et doivent étudier à l'aide de la prière les choix qu'elles font et l'effet qu'ils ont sur la famille. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande l'année dernière, j'ai lu un article dans le journal d'Auckland qui parlait de femmes qui n'étaient pas de notre culte, qui se débattaient au milieu de ces problèmes. Une mère disait qu'elle se rendait compte que dans son cas, son choix entre travailler ou rester à la maison était dû à son envie d'avoir un nouveau tapis et une deuxième voiture dont elle n'avait pas vraiment besoin. Cependant, une autre femme estimait que le pire ennemi d'une vie de famille heureuse n'était pas le travail rémunéré, mais la télévision. Elle déclarait que la famille est riche en télévision, mais pauvre en temps passé en famille. Ce sont des décisions très émotionnelles et personnelles, mais il y a deux principes que nous devons toujours garder à l'esprit. D'abord, aucune femme ne devrait jamais éprouver le besoin de présenter des excuses ou d'estimer que sa contribution est moindre parce qu'elle consacre l'essentiel de ses efforts à élever et à éduquer des enfants. Rien n'a plus d'importance dans le plan de notre Père Céleste. Ensuite, nous devons tous faire attention à ne pas porter de jugement ni à considérer que des sœurs sont moins vaillantes si elles décident de travailler à l'extérieur. Il est rare que nous comprenions ou évaluions complètement la situation des gens. Mari et femme doivent tenir conseil dans la prière en ayant conscience qu'ils sont responsables devant Dieu de leurs décisions. Sœurs dévouées qui élevez seules vos enfants pour une raison ou une autre, nous pensons le plus grand bien de vous. Les prophètes nous ont bien dit qu'il y a de nombreuses mains prêtes à aider. Le Seigneur n'est pas indifférent à votre sort, ni son Église. J'espère que les saints des derniers jours prendront les devants pour favoriser la création d'un environnement sur le lieu de travail qui sera plus réceptif et accommodant tant pour les hommes que pour les femmes dans leurs responsabilités parentales. Sœurs seules, vaillantes et fidèles, sachez que nous vous aimons et que nous vous apprécions, et soyez assurés qu'aucune bénédiction éternelle ne vous sera refusée. La remarquable pionnière que fut Emily Woodmansey a écrit les paroles du cantique « Nous, sœurs de Sion ». Elle affirme à juste titre qu'aux femmes incombe les tâches des anges. On a dit de cela que ce n'est rien moins que faire la volonté directe et immédiate de notre Père Céleste et que c'est un don que les sœurs revendiquent. Chères sœurs, nous vous aimons et nous vous admirons. Nous apprécions votre service dans le royaume du Seigneur. Vous êtes incroyables. J'exprime une reconnaissance particulière pour les femmes que je côtoie dans ma vie. Je témoigne de la réalité de l'expiation, de la divinité du Sauveur et du rétablissement de son Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous remercions le chœur du tabernacle, ses directeurs et les organistes de la belle musique qu'ils ont interprétée ce matin. Notre dernier orateur sera Henry Behring, premier conseiller dans la première présidence. Après le discours du président Behring, le chœur chantera notre cantique de clôture tout au sommet des monts. Dale Renland, des 70, fera ensuite la prière de clôture. Président Behring.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, le but de mon message est d'honorer et de célébrer ce que le Seigneur a fait et ce qu'il fait maintenant pour servir les pauvres et les nécessiteux parmi ses enfants sur terre. Il aime ses enfants qui sont dans le besoin et aime aussi ceux qui veulent aider. Il a fourni des moyens de bénir à la fois ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui veulent la donner. Notre Père Céleste entend les prières de ses enfants du monde entier qui demandent de la nourriture, des vêtements pour couvrir leur corps et la dignité que procure la capacité de subvenir à ses propres besoins. Ces supplications sont parvenues jusqu'à lui depuis qu'il a placé les hommes et les femmes sur la terre. Vous entendez parler de ses besoins là où vous habitez et dans le monde entier. Vous êtes souvent ému de compassion. Quand vous rencontrez quelqu'un qui cherche du travail, vous éprouvez ce désir d'aider. Vous le ressentez lorsque vous allez chez une veuve et que vous voyez qu'elle n'a pas de nourriture. Vous le ressentez quand vous voyez les photos d'enfants en pleurs, assis sur les ruines de leur maison, détruites par un tremblement de terre ou un incendie. Comme le Seigneur entend leurs cris et ressent votre profonde compassion pour eux, il a depuis le commencement fourni des moyens pour que ses disciples apportent leur aide. Il a invité ses enfants à consacrer leur temps, leurs moyens et leurs personnes afin de se joindre à lui pour rendre service aux autres. Sa façon d'aider a parfois été appelée vivre la loi de consécration. À une autre période, sa façon a été appelée l'ordre uni. À notre époque, elle s'appelle le programme d'entraide de l'Église. Les noms et les détails des opérations changent en fonction des besoins et de la situation des gens. Mais la manière du Seigneur d'aider les personnes qui ont des besoins temporels nécessite toujours des gens qui, par amour, ont consacré leur personne ainsi que ce qu'ils ont à Dieu et à son œuvre. Il nous a donné l'invitation et le commandement de participer à son œuvre pour secourir les personnes dans le besoin. Nous contractions l'alliance de faire cela dans les eaux du baptême et dans les saints temples de Dieu. Nous renouvelons cette alliance dimanche, quand nous prenons la Sainte-Seine. Mon but aujourd'hui est de décrire certaines des possibilités qu'il nous a données d'aider les personnes dans le besoin. Je ne peux pas parler de toutes dans le bref moment que nous passons ensemble. J'espère renouveler et fortifier votre engagement d'agir. Il y a un cantique sur l'invitation du Seigneur à participer à cette œuvre que je chante depuis mon enfance. Lorsque j'étais petit garçon, je faisais plus attention à la mélodie joyeuse qu'à la puissance des mots. Je prie pour que vous ressentiez les paroles dans votre cœur aujourd'hui. Écoutons-les de nouveau. Ai-je fait du bien dans ce monde aujourd'hui? Ai-je bien assisté mon prochain? Ai-je rendu joyeux un ami malheureux? Sinon, j'ai vécu en vain. Un fardeau ai-je allégé aujourd'hui par mon désir de partager? Et quand dans la détresse s'est trouvé autrui, ai-je été là, prêt à l'aider? Ne rêve plus, éveille-toi pour gagner ta couronne en haut. Le devoir est le bonheur si l'amour dans nos cœurs nous rapproche du ciel là-haut. Le Seigneur nous envoie à tous régulièrement des appels à nous réveiller. Parfois, c'est peut-être un sentiment soudain de compassion pour quelqu'un dans le besoin. Un père peut le ressentir en voyant un enfant tomber et s'égratigner le genou. Une mère peut le ressentir en entendant le cri apeuré de son enfant dans la nuit. Un fils ou une fille peuvent ressentir de la compassion pour quelqu'un qui a l'air d'être triste ou d'avoir peur à l'école. Nous avons tous ressenti la compassion pour des personnes que nous ne connaissions même pas. Par exemple, lorsque vous avez appris que des vagues déferlaient dans le Pacifique suite au tremblement de terre au Japon, vous vous êtes inquiété pour les personnes qui allaient peut-être être blessées. Des milliers d'entre vous ont éprouvé la compassion lorsqu'ils ont entendu la nouvelle de l'inondation au Queensland, en Australie. Les bulletins d'information étaient principalement des estimations du nombre de gens dans le besoin. Mais beaucoup d'entre vous ont ressenti la souffrance de ces personnes. Répondant à l'appel à se réveiller, au moins 1500 membres de l'Église d'Australie sont allés bénévolement aider et réconforter. Ils ont transformé leur sentiment de compassion en une décision de traduire leurs alliances en action. J'ai vu les bénédictions accordées à la personne dans le besoin qui reçoit l'aide et à la personne qui saisit l'occasion de la donner. Les parents, pleins de sagesse, voient dans chaque besoin des autres le moyen d'apporter des bénédictions à leurs fils et à leurs filles. Récemment, trois enfants ont apporté jusque chez nous des récipients contenant un délicieux dîner. Leurs parents savaient que nous avions besoin d'aide et les ont fait participer à cette occasion de nous servir. Par leur service généreux, les parents ont été une bénédiction pour notre famille. En choisissant de faire participer leurs enfants à ce don, ils ont également apporté des bénédictions à leurs petits-enfants. Quand les enfants sont partis, leur sourire m'a donné la certitude que cela se produira. Ils parleront à leurs enfants de la joie qu'ils ont ressentie en accomplissant un acte de gentillesse pour le Seigneur. Je me souviens de ce sentiment discret et satisfaction lorsqu'enfant, j'arrachais les mauvaises herbes du jardin d'un voisin sur l'invitation de mon père. Chaque fois que l'on m'invite à donner, je me souviens du cantique « Douce est la tâche, ô Dieu mon roi ». Et j'y crois. Je sais que ces paroles ont été écrites pour exprimer la joie que l'on a à adorer le Seigneur lors du sabbat. Mais les enfants qui se sont présentés à notre porte ressentaient, un jour de semaine, la joie d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Et leurs parents y ont vu l'occasion de faire du bien et de répandre la joie sur plusieurs générations. Et leurs petits-enfants. La façon du Seigneur de prendre soin des nécessiteux donne une autre occasion aux parents d'apporter des bénédictions à leurs enfants. Je l'ai vu dans une salle de culte un dimanche. Un petit enfant a tendu à l'évêque une enveloppe de dons contenant l'offrande de sa famille lorsqu'il est entré dans la salle avant la réunion de Sainte-Seine. Je connaissais cette famille et ce garçon. Elle venait d'apprendre que quelqu'un dans la paroisse était dans le besoin. Lorsqu'il avait mis dans l'enveloppe une offrande de jeûne plus généreuse que d'ordinaire, le père du garçon avait dit quelque chose de ce genre à son fils. Aujourd'hui, nous avons jeûné et prié pour les personnes dans le besoin. Est-ce que tu peux donner cette enveloppe à l'évêque pour nous? Je sais qu'il utilisera cet argent pour aider les personnes qui en ont encore plus besoin que nous. Au lieu de se souvenir que la faim le tenaillait ce dimanche-là, le garçon se rappellera ce jour avec joie. Je pouvais voir à son sourire et la façon dont il serrait l'enveloppe qu'il avait conscience de la grande responsabilité que lui avait confiée son père de porter l'offrande de la famille pour les pauvres. Il se souviendra de cette journée lorsqu'il sera diacre et peut-être pour toujours. J'ai lu le même bonheur sur le visage de personnes qui avaient aidé des gens pour Seigneur en Idaho il y a des années. Le barrage de Teton s'est rompu le 5 juin 1976. 11 personnes ont été tuées. En quelques heures, des milliers de personnes ont dû partir de chez elles. Des maisons ont été emportées. Des centaines d'habitations n'ont pu être rendues habitables que par des efforts et des moyens qui allaient bien au-delà de ceux des propriétaires. Les gens qui ont entendu parler de la tragédie ont ressenti la compassion, ont perçu l'appel à faire le bien. Des voisins, des évêques, des présidents de secours, des dirigeants de collèges, des instructeurs au foyer, des instructrices visiteuses sont partis de chez eux ou ont laissé leur travail pour nettoyer les maisons inondées d'autres personnes. Un couple qui rentrait de vacances est arrivé à Rexburg juste après l'inondation. Le mari et la femme ne sont pas allés voir leur propre maison. Au lieu de cela, ils sont allés trouver leur évêque pour lui demander où ils pouvaient aller et aider. Il leur a indiqué une famille dans le besoin. Quelques jours plus tard, ils sont allés voir leur maison. Elle n'était plus là. Elle avait été emportée dans l'inondation. Ils sont retournés voir leur évêque et l'ont demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez que nous fassions maintenant ?» Où que vous viviez, vous avez vu ce miracle de la compassion traduit en action désintéressée. Peut-être cela n'a-t-il pas été suite à une catastrophe naturelle de grande ampleur. J'ai vu cela dans un collège de la prêtrise. Son frère se lève pour décrire les besoins d'un homme ou d'une femme qui recherche un emploi afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. J'ai pu ressentir la compassion dans la pièce, mais certains donnent des noms de personnes qui pourraient employer ce frère ou cette sœur qui avait besoin d'un travail. Ce qui se passe dans ce collège de la prêtrise et ce qui s'est passé pour les maisons inondées de l'Idaho sont des manifestations de la manière du Seigneur d'aider les personnes en grande difficulté à redevenir autonomes. Nous ressentons la compassion et nous savons comment agir à la manière du Seigneur pour aider. Cette année, nous fêtons le 75e anniversaire du programme d'entraide de l'Église. Il a été mis en place pour répondre aux besoins des personnes qui avaient perdu leur emploi, leur exploitation agricole ou même leur maison, à la suite de ce qui a été appelé la Grande Dépression. À notre époque, les enfants de notre Père Céleste ont une nouvelle fois de grands besoins temporels, comme cela a été le cas dans le passé, et comme cela se produira à toutes les époques. Les principes de la mise en place du programme d'entraide de l'Église ne sont pas prévus uniquement pour une époque ou un endroit. Ils sont faits pour toutes les époques et pour tous les lieux. Ces principes sont spirituels et éternels. En conséquence, le fait de les comprendre, les intégrer dans notre cœur, nous permettra de voir et de saisir les occasions d'aider quand et où le Seigneur nous y invite. Voici quelques principes qui m'ont guidé lorsque j'ai voulu aider à la manière du Seigneur et quand j'ai reçu l'aide d'autres personnes. Premièrement, tout le monde est plus heureux et a une plus grande estime de soi quand il peut subvenir à ses besoins et ceux de sa famille et ensuite tendre la main à d'autres. J'ai éprouvé de la reconnaissance envers les personnes qui m'ont aidé à subvenir à mes besoins et au fil des ans, j'étais encore plus reconnaissant envers celles qui m'ont aidé à acquérir plus d'autonomie. Et puis j'étais extrêmement reconnaissant envers celles qui m'ont montré comment utiliser une partie de mon excédent pour aider les autres. J'ai appris que pour avoir un excédent, il faut que je dépense moins que je gagne. Grâce à cet excédent, j'ai pu apprendre qu'il est réellement mieux de donner que de recevoir. Cela est en partie dû au fait que lorsque nous aidons la manière du Seigneur, il nous bénit. Marion G. Romney a dit au sujet de l'entraide, on ne peut pas s'appauvrir en donnant trop à cette œuvre. Il a ensuite cité son président de mission, Melvin Ballard, on ne peut pas donner un croûton au Seigneur sans recevoir un pain en retour. J'ai constaté dans ma vie que c'est vrai. Lorsque je suis généreux envers les enfants de notre Père Céleste qui sont dans le besoin, il est généreux avec moi. Le deuxième principe de l'Évangile qui m'a guidé dans l'entraide est le pouvoir et la bénédiction qu'apporte l'unité. Quand nous nous donnons la main pour servir les gens dans le besoin, le Seigneur unit nos cœurs. J. Reuben Clark, fils, l'a dit en ces termes. Ce service a suscité un sentiment de fraternité, du fait que des hommes de toute formation, de tout métier, ont travaillé côte à côte dans un potager ou un autre projet d'entraide. Fin de citation. Ce sentiment accru de fraternité est aussi vrai pour le bénéficiaire que pour le donateur. Aujourd'hui encore, un homme avec qui j'ai travaillé côte à côte, a enlevé la boue de sa maison inondée à Rexburg, ressent un lien particulier avec moi et ressent une plus grande dignité d'avoir fait tout ce qu'il a pu pour lui-même et pour sa famille. Si nous avions travaillé seuls, nous aurions tous les deux raté une bénédiction spirituelle. Cela mène à ce que je considère comme le troisième principe d'action de l'entraide. Faites participer vos enfants afin qu'ils apprennent à prendre soin les uns des autres en même temps qu'ils prennent soin des personnes à l'extérieur de la famille. Vos fils et vos filles qui travaillent avec vous pour servir les personnes qui sont dans le besoin seront plus enclins à s'aider mutuellement en cas de besoin. J'ai appris le quatrième principe important de l'entraide de l'Église quand j'étais évêque. Il découle de l'application du commandement scripturaire de rechercher les pauvres. L'évêque a le devoir de trouver et d'aider les personnes qui ont toujours besoin d'assistance après tout ce qu'elles et leurs familles peuvent faire. J'ai constaté que le Seigneur envoie le Saint-Esprit pour nous aider à trouver les pauvres qui ont besoin que l'on prenne soin d'eux, accomplissant ainsi la promesse « Cherchez, vous trouverez », comme il le fait quand il s'agit de trouver la vérité. Et j'ai appris aussi à impliquer la présidente de ce secours dans la recherche. Elle peut recevoir la révélation à vous, avant vous. Certains d'entre vous auront besoin de cette inspiration dans les mois à venir. Pour commémorer le 75e anniversaire du programme d'entraide de l'Église, les membres du monde entier seront invités à participer à une journée de service. Les dirigeants et les membres rechercheront la révélation pour concevoir les projets. Je vais faire trois suggestions concernant la planification de votre projet de service. Premièrement, préparez-vous spirituellement et ceux que vous dirigez aussi. Ce n'est que si vous avez le cœur adouci par l'expiation du Sauveur que vous pouvez voir clairement que le but du projet est d'apporter des bénédictions spirituelles et temporelles aux enfants de notre Père Céleste, individuellement ou collectivement. Ma deuxième suggestion est de choisir comme bénéficiaire de votre service des gens dans le royaume ou dans la collectivité dont les besoins toucheront le cœur des personnes qui rendront le service. Les gens que vous aiderez ressentiront votre amour. Cela fera plus pour les rendre heureux, comme le cantique le promet, que le fait de répondre à leurs besoins temporels. Ma dernière suggestion est de prévoir d'utiliser la force des liens qu'unissent les membres de la famille, les collèges, les organisations auxiliaires, ainsi que les gens que vous connaissez là où vous vivez. Les sentiments d'unité multiplieront les effets positifs du service que vous rendrez. Et ces sentiments d'unité qui existeront dans les familles, dans l'Église et dans les collectivités s'amplifieront. Elles deviendront un héritage permanent, bien après la fin du projet. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire à quel point je vous apprécie. Suite au service aimant que vous avez rendu pour le Seigneur, j'ai eu, quand je les ai rencontrés, les remerciements des gens que vous avez aidés dans le monde entier. En aidant à la manière du Seigneur, vous avez trouvé le moyen de les édifier. Vous et d'humbles disciples de Sauveur comme vous avez jeté votre pain sur la face des eaux dans le service. Les gens que vous avez aidés ont essayé de me donner en retour un pain entier de gratitude. Je reçois les mêmes expressions de reconnaissance de la part des gens qui ont travaillé avec vous. Je me souviens qu'un jour, je me tenais à côté du président Benson. Nous avions parlé du service dans l'Église du Seigneur. Il m'a surpris par sa vigueur juvénile lorsqu'il a dit, en agitant la main, « J'aime ce travail. » Et c'est du travail. De la part du Maître, je vous remercie de vos efforts pour servir les enfants de notre Père Céleste. Il vous connaît. Il voit votre travail, votre diligence et vos sacrifices. Je prie pour qu'il vous accorde la bénédiction de voir les fruits de vos efforts dans le bonheur des personnes que vous avez aidées pour le Seigneur. et avec qui vous avez aidé. Je sais que Dieu le Père vit et qu'il entend nos prières. Je sais que Jésus le Christ, vous, les personnes que vous aidez, vous vous êtes purifiés et fortifiés en le servant et en respectant ses commandements. Vous pouvez savoir, comme moi, par le pouvoir du Saint-Esprit, que Joseph Smith était le prophète de Dieu qui a rétabli l'Église vraie et vivante, qui est celle-ci. Je témoigne que le président Monson est le prophète vivant de Dieu. Il est un grand exemple de ce que le Seigneur a fait, aller partout, faisant le bien. Je prie pour que nous saisissions les occasions que nous avons d'élever les mains qui faiblissent et de fortifier les genoux qui chancellent. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Our Heavenly Father,
notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ce que nous avons vu et entendu et ressenti. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui nous dirigent et nous enseignent. Nous te prions pour eux, pour leur santé, leur bien-être, et te prions pour que nous soyons suffisamment humbles et doux de cœur, comme des enfants, pour suivre les directives que nous avons reçues. Il y a tant de tes enfants parmi le monde qui souffrent des catastrophes naturelles, des conséquences des actions des hommes, connus et inconnus. Nous te prions pour ceux qui se sentent vraiment opprimés, afin qu'ils reçoivent une bénédiction de réconfort et l'aide dont ils ont besoin. Nous te prions que tu inspires individuellement et collectivement chacun d'entre nous pour savoir comment aider, éprouver et faire en sorte que la sympathie, la compassion que nous éprouvons puisse se transformer en action pour les aider. Nous te prions pour que la bénédiction de la paix et de la stabilité surviennent sur les nations qui connaissent des troubles et des difficultés. Et nous te prions que nous puissions emmener l'Évangile partout dans le monde. Et nous te demandons ta bénédiction alors que nous partons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been the first session of the 180.
Vous venez d'assister à la première session de la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.